Vous écoutez On lit pour vous.
L'UNESCO donne la parole aux filles et aux femmes afghanes et demande le rétablissement de leurs droits. Un texte de la rédaction paru le 6 mars 2025 sur le site de l'UNESCO. Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan en 2021, ils ont publié plus de 70 décrets restreignant les droits des femmes et des filles. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'UNESCO donne la parole aux Afghanes et met en lumière l'impact de la perte d'opportunités d'éducation. Nous n'avons pas le droit à l'éducation, pas le droit de travailler, pas le droit d'exister librement. Ils nous excluent de la société. Une femme afghane exprime ce que ressentent de nombreuses femmes et filles afghanes. Pour elle, la vie est devenue insupportable, limitée aux quatre murs dans lesquels elles vivent. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, l'éducation est interdite aux filles de plus de 12 ans. En raison de cette interdiction, l'Afghanistan est aujourd'hui le seul pays au monde où les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école secondaire. À ce jour, ces restrictions ont touché environ 1,5 million de jeunes filles afghanes. Selon un nouveau rapport de l'UNESCO, si l'interdiction se poursuit jusqu'en 2030, plus de 4 millions de filles seront concernées. Il est inquiétant de constater que cette régression fait suite à des décennies de progrès. Grâce à une ambitieuse campagne internationale coordonnée par l'UNESCO, le nombre de filles inscrites à l'école primaire était passé de presque zéro en 2001 à 2,5 millions en 2021. À cette époque, 30 % des filles et des femmes afghanes savaient également lire et écrire, contre seulement 17 % 20 ans plus tôt. Aujourd'hui, ces avancées sont en voie de disparition, les restrictions actuelles ayant des conséquences désastreuses. Les coupes salariales punitives et le paiement irrégulier des salaires des enseignantes ont entraîné une pénurie d'enseignantes qualifiées. Le manque d'équipement et d'installation a fait des ravages dans les services d'éducation. Cette baisse de la qualité de l'éducation s'est accompagnée de pertes d'apprentissage considérables. Plus inquiétant encore, ces restrictions ont des répercussions sur la santé mentale des femmes et des jeunes filles. Selon la journaliste afghane Diba Akbari, si les femmes étudiaient, les écoles et les universités leur étaient fermées. Le travail leur était interdit. Aujourd'hui, ces femmes sont toutes prisonnières et luttent contre des problèmes de santé mentale. Méthode d'apprentissage alternative. Dans ce contexte sombre, les méthodes d'apprentissage alternative ont offert une lueur d'espoir. Depuis 3 ans et demi, l'UNESCO apporte un soutien financier et une formation aux médias afghans, ce qui permet de diffuser des programmes éducatifs à une audience estimée à 17 millions d'Afghans. Nous avons mis en place des cours d'alphabétisation au niveau local dans plusieurs provinces, établi des partenariats avec des universités étrangères, proposant des cours en ligne et soutenu des programmes éducatifs par le biais de la radio et de la télévision, dit Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. L'un de ces médiums est Begum TV, à Paris, ainsi que sa station de radio basée à Kaboul, Radio Begum. Créée par des femmes pour des femmes, Radio Begum proposait à l'antenne des cours de soutien scolaire, de santé mentale et d'éducation financière, touchant un public d'environ 5,9 millions de personnes, dont près de 2/3 de femmes, dans 19 provinces. Cependant, en février 2025, Radio Begum a cessé d'émettre, après que ses bureaux ont été perquisitionnés par des responsables talibans. Cette fermeture a provoqué la consternation générale, car l'une des dernières lignes de vie des femmes afghanes, vers le monde extérieur, a été coupée. Comme l'a souligné une femme, « il n'y a plus de voix pour nous en Afghanistan ». À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'UNESCO s'efforce de changer cette situation en veillant à ce que les voix des filles et des femmes afghanes soient entendues. Elle organise une conférence internationale pour les femmes journalistes, musiciennes et artistes afin d'appeler au rétablissement inconditionnel du droit à l'éducation pour les filles et les femmes afghanes. L'événement vise à mettre en lumière la situation désastreuse des femmes et des filles afghanes, à honorer et à amplifier leur voix et à discuter des moyens par lesquels la communauté internationale pourrait soutenir leur éducation, dit Audrey Azoulay. Parmi les participants figure l'artiste de rue Shamsia Hassani, qui produira une œuvre d'art pour l'occasion. Les œuvres de Madame Hassani présentent les Afghanes sous un jour différent. Elles sont courageuses, résistantes et ambitieuses. Comme elle le dit, « La femme que j'utilise dans mon travail, elle est seule. Elle est confrontée à de nombreux problèmes. Mais elle reste forte. » Voilà ce qu'il faut retenir. Les filles et les femmes afghanes ne sont pas faibles, et elles ont un message puissant à transmettre au monde. Comme le dit une jeune fille, pleine de courage, « Il est vrai que vous avez fermé les portes des écoles et des universités, mais vous ne pourrez jamais fermer nos esprits. » C'était « L'UNESCO donne la parole aux filles et aux femmes afghanes et demande le rétablissement de leurs droits. » Un texte de la rédaction paru le 6 mars 2025 sur le site de l'UNESCO.
Pas de quoi faire un buzz. Un texte de Mathieu Perrault paru le 2 mars 2025 dans la presse. Drogue dans les eaux usées? On trouve effectivement du fentanyl et d'autres drogues dans les eaux usées, mais en quantité négligeable. On parle d'un niveau des milliers de fois inférieur à des doses qui entraînent un changement de l'état de santé ou provoquent un buzz. On se sert des analyses de drogue dans les eaux usées pour étudier leur consommation, explique Benoît Barbeau, co-titulaire de la chaire en eau potable à Polytechnique Montréal. On voit qu'il y en a plus après les fins de semaine, mais ce sont des taux nettement inférieurs aux doses thérapeutiques. Une dose de médicament ou de drogue est dite thérapeutique si elle a un effet clinique. Une étude montréalaise, publiée l'an dernier dans la revue Science of the Total Environment, a évalué les taux de 27 médicaments dans les eaux de surface au Québec. On en trouvait au maximum quelques centaines de nanogrammes par litre. Selon Sébastien Sauvé, de l'Université de Montréal, UdeM, auteur principal de cette étude, il y a eu peu d'enjeux de santé humaine pour les rejets dans les eaux usées ou pour les résidus dans les eaux potables, tant pour les médicaments que pour les drogues. Benoît Barbeau se souvient d'une étude sur le Tylenol dans l'eau potable. Pour une personne qui boit de l'eau du robinet, ça équivalait à une capsule de Tylenol pour toute la vie. Quand on sait que certaines personnes en prennent plusieurs par jour, ce n'est pas un gros problème. Réalisée au Minnesota, cette étude mentionnait que jusqu'à 9 % de l'acétaminophène, Tylenol, qu'on prend, se retrouve directement dans l'urine, ce qui explique pourquoi on en retrouve dans les eaux usées, puis dans l'eau potable. Biodisponibilité. De plus, Les drogues injectables comme le fentanyl agissent sur notre système beaucoup plus rapidement que lorsqu'elles sont ingérées par voie orale puis digérées, explique l'ingénieur de Polytechnique. M. Barbeau a rapidement vérifié les doses thérapeutiques de certaines drogues injectables qui varient généralement entre 50 et 100 microgrammes, soit de 50 000 à 100 000 nanogrammes. Comme on trouve quelques dizaines ou centaines de nanogrammes de ces drogues dans les eaux usées et 100 à 1000 fois moins dans l'eau potable, cela signifie qu'on n'a pratiquement aucun risque de subir un effet en buvant de l'eau du robinet. Selon M. Barbeau, on a des ratios 10 000 à 100 000 fois moins grands que les doses thérapeutiques dans l'eau potable. L'intérêt pour les médicaments dans l'eau potable est apparu il y a 20 ans, quand on a commencé à se soucier d'autres types de micropolluants. Ensuite, des chercheurs ont appliqué le même type d'analyse pour évaluer la prise de médicaments et la prise de drogue à partir des eaux usées. En savoir plus. Source département de la santé du Minnesota. 10 nanogrammes par litre, quantité moyenne d'acétaminophène dans l'eau potable. C'était « Pas de quoi faire un buzz », un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 mars 2025 dans La Presse.
La santé auditive, ça parle à tout le monde. Un texte du Réseau des cliniques LOB, paru le 26 février 2025 dans Virage. À tout âge, il est crucial de prendre soin de sa santé auditive. Même une légère diminution de l'audition peut entraîner des conséquences néfastes sur la qualité de vie, la communication et, à long terme, la santé cognitive. En vieillissant, les risques de subir une perte auditive augmentent. En effet, environ un tiers des personnes de 65 ans et plus en est touché. Chez les 75 ans et plus, cette proportion atteint près de la moitié. Voilà des données inquiétantes dans un contexte de vieillissement de la population. De plus, ces dernières années, on observe une hausse préoccupante de la surdité professionnelle chez les jeunes qui travaillent dans des milieux bruyants. Cette double réalité fait de la santé auditive un enjeu des plus importants dans notre société. Prévenir plutôt que de guérir. C'est pourquoi il est primordial de prévenir plutôt que de guérir. Lorsque les premiers signes de perte auditive cognent à la porte, il faut pouvoir les reconnaître. Ensuite, il faut agir. Le volume sonore de la télévision n'est jamais assez élevé pour vous ou un de vos proches? Il pourrait être temps d'entamer des démarches d'évaluation sommaire de votre audition. Cela vous permettra de brosser un portrait initial de votre santé auditive. Par exemple, si les mots comme 6 et 10 sont confondus, ou si les sons aigus sont difficiles à entendre, il pourrait être suggéré de poursuivre les démarches vers un examen complet de l'audition. Le professionnel de la santé auditive orientera ensuite le patient ou la patiente vers les meilleures solutions selon ses besoins. Plus tôt on agit, mieux c'est. Parmi les solutions offertes se trouvent les appareils auditifs qui sont de plus en plus discrets et performants. Il existe aussi des mesures préventives comme le port d'embouts protecteurs sur mesure pour les environnements bruyants. Dans tous les cas, il est important de ne pas attendre. Plus tôt on agit, mieux c'est. La santé auditive est essentielle à notre qualité de vie, à notre communication et à notre bien-être général. L'audition joue un rôle central dans notre quotidien. Elle influence non seulement nos relations interpersonnelles, nous permettant de maintenir une vie sociale active, mais aussi notre bien-être mental et émotionnel. Une perte auditive n'affecte pas seulement nos relations avec nos proches et notre qualité de vie, mais peut également toucher notre santé cognitive. Le manque de stimulation d'un sens peut laisser des séquelles à long terme, notamment en ce qui concerne la compréhension des mots. Si vous avez des doutes sur la qualité de votre audition, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation en santé auditive. Voici quelques exemples de signes d'une perte auditive. Demandez fréquemment à l'entourage de répéter. Augmentez le volume de la télévision. avoir de la difficulté à comprendre la parole dans le bruit ou en groupe. Avoir de la difficulté à détecter certains sons, par exemple, sonnerie du téléphone, chant des oiseaux. Répondre fréquemment de façon inexacte ou inappropriée durant une conversation. Confondre certains mots comme 6 et 10. C'était « La santé auditive, ça parle à tout le monde », un texte du réseau des cliniques LOB, paru le 26 février 2025 dans Virage.
Enseigner la poésie au secondaire avec Instagram et les cellulaires. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 27 février 2025 dans Le Devoir. Ce sont 90 % des jeunes Canadiens de 12 à 17 ans qui sont sur les médias sociaux. Sur TikTok d'abord, de loin le plus populaire. Puis sur Snapchat, ensuite sur Instagram. Comment enseigner la littérature à cette génération hyper connectée, auto-domptée à faire défiler du contenu? Et pourquoi, alors, ne pas utiliser directement Instagram pour approcher la poésie au secondaire? C'est la question que s'est posée Amélie Lemieux, professeure et chercheuse en didactique de français à l'Université de Montréal, et qu'elle a testée avec des écoles. Est-ce qu'utiliser en classe un langage que les jeunes connaissent et des plateformes par lesquelles ils vivent, interagissent et avec lesquelles ils reproduisent leurs interactions humaines permettrait de les ramener à des choses essentielles, dont le plaisir de lire? C'est à partir de cette interrogation qu'Amélie Lemieux a monté, avec son équipe de recherche, une étude sur le terrain. 4 écoles secondaires, anglophones et francophones, à Laval, Montréal, Edmonton et Brisbane, en Australie, se sont engagées dans ce projet de recherche-action pour déterminer si les médias sociaux peuvent être des alliés dans les cours. L'enseignement traditionnel de la poésie au secondaire reste assez aride, rappelle Amélie Lemieux. Souvent, on apprend des alexandrins, on analyse, on récite. Une approche, selon la professeure, fort éloignée de la vocation de la poésie telle qu'elle est vécue par les adultes qui la lisent quand on va en librairie pour voir ce qu'un recueil va nous faire ressentir. C'est pour vibrer, poursuit la chercheuse. Pourrait-on donc faire d'abord vibrer les jeunes? La stratégie de l'étude « Teaching Poetry Using Instagram, an International Interdisciplinary Study with Adolescents Mobilizing Literacy and the Arts » a été de passer par le visuel et par le cellulaire que des élèves aiment et maîtrisent. À Montréal, des élèves ont effectué, par exemple, des visites virtuelles du Musée des beaux-arts de Montréal. L'étude a été menée pendant le confinement de la pandémie qui ne permettait pas une vraie visite et les arts visuels, par leur nature, se défendent merveilleusement bien dans le monde numérique. Avec leurs professeurs, les étudiants approchaient les œuvres, puis les utilisaient pour parler de symbolique des images, de composition, ou pour évaluer les effets qu'elles provoquaient chez eux et expérimenter l'appréciation esthétique. Cette « grammaire de l'image » a servi ensuite à l'écriture de leurs propres poèmes, aussi inspirés par les œuvres visuelles observées. Le lien, explique Amélie Lemieux, s'est fait de l'analyse des images vers les figures de style et le langage imagé qu'appelle la poésie. Le visionnement de toiles ou de photographies peut créer une réaction affective, esthétique, cognitive chez celui qui les regarde, rappelle la professeure. La poésie crée les mêmes réactions pour qui sait comment la lire. L'idée, c'était de faire ces trajets avec eux. À partir de leurs réactions aux œuvres visuelles, les élèves avaient pour mission de composer des poèmes. Ils ont également été nourris des œuvres des poètes innus Marie-André Gill et Joséphine Bacon, ainsi que des textes de Simon Boulris autour d'une sélection de thèmes qui leur sont chers, comme la justice sociale et l'identité. Les écrits, pour les étudiants qui le voulaient et avec le consentement des parents, ont été partagés sur le compte Instagram hashtag InstaPoétique. On a désactivé les commentaires pour qu'il n'y ait pas de cyberharcèlement. on a permis à la communauté plus large de voir et de lire les créations des étudiants, précise Mme Lemieux. Ce qui était intéressant avec Instagram, c'est qu'il existait déjà le mouvement Insta Poésie et toute une communauté intéressée qu'il suffisait de joindre. Des cellulaires bienvenus en classe. Il y a actuellement une dichotomie entre ce que les jeunes font et ce que nous, les profs, on fait et on leur fait faire, estime Amélie Lemieux. Tout le monde a ce besoin de l'âme de se sentir connecté. Même si les réseaux sociaux peuvent donner cette impression, ils augmentent aussi notre sentiment d'isolement et changent nos rapports humains, comme le démontrent plusieurs études. C'est une réalité avec laquelle il faut composer. Désormais, dans la salle de classe, enchaîne la spécialiste. Maintenant, c'est comme si tout le monde était sur overdrive tout le temps. Il faut qu'on ramène les choses à l'essentiel, qu'on se ramène à l'essentiel, à ce qui compte. Amélie Lemieux croit qu'on peut le faire en utilisant autrement les cellulaires et les réseaux sociaux. Quelle hypocrisie quand on interdit les cellulaires aux jeunes, s'emporte un instant la professeure. On a fait naître ces enfants-là, on a créé ces technologies-là, on n'est pas nous-mêmes un bon exemple d'utilisation saine des téléphones et des réseaux sociaux. C'est à nous d'élever ces jeunes dans un monde qui appelle à l'ouverture à l'autre. Et on peut passer par leur réalité et leurs outils de communication pour essayer de les amener vers d'autres univers. La culture, les beaux-arts, la littérature québécoise, la littérature autochtone, la poésie. L'étude, Amélie Lemieux, la voit vraiment comme un guide pour ceux qui veulent aller vers cette avenue-là. Ce n'est pas une prescription. Il y a d'autres choses qui fonctionnent. La recherche conclut que les professeurs ont noté une joie d'apprendre chez les étudiants. Ceux-ci étaient heureux de pouvoir choisir eux-mêmes les œuvres desquelles ils s'inspiraient pour écrire. Cette diversité a provoqué de riches discussions dans les groupes. L'utilisation d'Instagram a également tissé un lien naturel entre les pratiques littéraires que les jeunes peuvent développer à l'école et celles du monde extérieur. Un exemple à tester avec d'autres matières? C'était Enseigner la poésie au secondaire avec Instagram et les cellulaires. Un texte de Catherine Lalonde paru le 27 février 2025 dans Le Devoir.
La paralysie du sommeil. Un texte de Mathieu Perrault paru le 16 mars 2025 dans La Presse. Des chercheurs torontois viennent de faire des pas de géant sur la paralysie du sommeil. Ils ont bon espoir d'avoir des médicaments d'ici 5 à 10 ans. Normalement, quand on dort, on ne bouge pas, explique John Peaver, biologiste à l'Université de Toronto. Un patient qui souffre de paralysie du sommeil est encore paralysé quand il se réveille. Ça ne dure que quelques secondes, quelques dizaines de secondes au maximum, mais c'est traumatisant. La paralysie du sommeil est liée au cycle REM, mouvement rapide des yeux, du sommeil, qu'on associe souvent au rêve. On parle aussi de sommeil paradoxal, qui représente 25 % du temps de sommeil, selon National Sleep Foundation. Monsieur Peaver, qui a consacré sa carrière à ce trouble, a découvert que cette paralysie, bénéfique quand on dort, mais nuisible au réveil, est associée à des cellules précises du cerveau. Il travaille maintenant à mettre au point des médicaments qui entravent la paralysie associée à ces cellules. Est-ce que ces médicaments pourraient entraver la paralysie durant le sommeil paradoxal? Les premières données animales nous indiquent que non, mais il faudra vérifier. Ce problème est-il fréquent? C'est très difficile à savoir, nous répond John Peaver, parce que la plupart des gens vont l'avoir très rarement, peut-être moins d'une fois par an, et qu'ils ne vont pas nécessairement s'en rendre compte ou consulter. Mais nous avons de temps en temps des gens à qui ça arrive souvent, plus d'une fois par mois. Selon lui, la paralysie du sommeil atteint beaucoup moins que 1% des gens. Mais son impact psychologique lui a donné une forte résonance culturelle. Il cite une étude brésilienne de 2016, publiée dans la revue Frontiers in Psychology, qui a recensé les évocations du trouble dans plusieurs cultures. Dans la peinture occidentale, on voit souvent ce trouble sous la forme d'une personne endormie avec à son chevet un démon, précise M. Peaver. Un tableau du peintre romantique suisse Johann Heinrich Füssli était mentionné dans l'étude de Frontiers in Psychology. Narcolepsie. Les mêmes cellules liées à la paralysie du sommeil paradoxal sont associées à la narcolepsie, cette tendance à s'endormir durant la journée. Certains narcoleptiques ont aussi de la paralysie, dit M. Peaver. La narcolepsie touche moins d'une personne sur 1000. Quant à la paralysie associée à la narcolepsie, elle est encore plus rare. Est-ce que les narcoleptiques ont déjà eu des accidents à cause d'une paralysie? Non, parce que les gens qui ont une narcolepsie sévère cessent généralement de conduire. La paralysie survient seulement avec la narcolepsie sévère. Les émotions fortes viennent exacerber la narcolepsie. Un lien avec l'amygdale, une région du cerveau associée au sens et à l'anxiété, est donc envisagé. Un autre trouble lié à ces cellules est l'absence de paralysie durant le REM. Il s'agit de gens qui vont avoir des mouvements désordonnés durant le REM et qui peuvent se blesser ou blesser leur conjoint, explique M. Peaver. La plupart de ces patients vont développer la maladie de Parkinson, donc un médicament agissant sur ces cellules serait très intéressant. Le trouble du comportement en sommeil paradoxal est plus fréquent après 60 ans et touche de 1 à 2 % des personnes de plus de 80 ans, souligne M. Peaver. Il semble plus fréquent chez les hommes, mais pourrait simplement donner des mouvements moins violents chez les femmes, selon le biologiste torontois. Et le somnambulisme? C'est un trouble d'une toute autre phase du sommeil, donc a priori, ça ne devrait pas être le même problème biologique, dit M. Peaver. C'était « La paralysie du sommeil », un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 mars 2025 dans La Presse.